en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Florence Delay, dont je rappelle qu'elle a été reçue à l'Académie française le 15 novembre 2001. Florence Delay, agrégée d'espagnol, universitaire, enseignante de littérature générale et comparée, traductrice, romancière, essayiste, dramaturge, et dont la curiosité et la créativité sont à l'image de sa culture, à la fois impressionnante et aussi originale qu'éclairée, comme en témoignent les derniers livres qu'elle a publiés, « Trois désobéissances », un roman chez Gallimard, et « Mon Espagne, or et ciel » chez Hermann, une autobiographie intellectuelle à travers les grands écrivains espagnols qui l'ont marqué, et dont je me permettrai de dire que c'est un livre qui vous prend véritablement aux tripes. Florence Delay, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle le principe de cette série L'Essentiel, cette question récurrente posée à tous les invités et concernant leur itinéraire, leur milieu d'activité, leur regard sur le monde, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, Florence Delay, quel a été jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Je crois que le moment essentiel a été un échec. Je voulais faire du théâtre, et puis pour des raisons privées, un divorce, mon père m'a mise devant un choix. Soit je regagnais la tradition familiale et je passais l'agrégation d'espagnol, et on m'achetait un studio, soit je faisais du théâtre et je me débrouillais. Et j'ai choisi le studio et l'agrégation. Et j'en ai été, je pense que ça a été une très bonne décision, car j'ai évidemment, au début dans le malheur, mais après dans la joie, pu exercer un métier magnifique, qui est l'enseignement.
Qui est l'enseignement. Mais si l'on remontait un petit peu plus loin, il y avait cette expérience extraordinaire que vous avez racontée dans Minuit sur les Jeux, cette découverte d'une famille espagnole aussi aristocratique que pauvre,
oui.
Ça vous a profondément marqué. Enfin, ça aussi, c'est
un... Il y avait un goût de l'Espagne qui m'était venu tôt, très tôt. Et parallèlement à mes activités de théâtre ou d'autres, j'avais fait une licence d'espagnol et une maîtrise d'espagnol également, pas par goût. Mais le concours me faisait très peur. Et puis voilà, je remercie mon père au fond. Il m'a permis d'avoir une vie plus difficile et donc plus riche.
Oui, très très riche, on aura l'occasion de l'évoquer. Donc, cette famille espagnole, et puis il y a eu aussi Lorca, la découverte d'un poème de Lorca, ça vous a transformé, ça, ça...
Oui, il y a eu une série d'étapes comme cela qui ont tracé un chemin, au fond, définitif vers l'Espagne. Et elle m'a constitué autant que la France, que la littérature et la langue française, je crois.
Et toujours cette passion des écrivains. Alors, dans votre dernier livre, Mon Espagne, or et ciel, vous dites au sujet de Calderón, donc l'auteur de La vie est un songe, il fait partie des écrivains qui me paraissent détenir sur moi une documentation personnelle. Alors, est-ce que c'est vrai que vous ressentez un lien d'une intimité aussi essentielle avec vos auteurs préférés ?
Oui, parce que voyez-vous... Il me suffit de vous citer deux titres de pièces de Calderón. La vie est un songe, le grand théâtre du monde. Eh bien, pour moi, ces deux images dramatiques m'ont guidé. Pour moi, le monde est un théâtre. Et mon amour du théâtre vient aussi de mon amour du monde, le théâtre du monde, le grand théâtre du monde où chacun joue son rôle. Et la vie est un songe, l'émerveillement de découvrir que la langue espagnole, il n'y a qu'un mot pour dire songe, rêve et sommeil. Et que quand vous dites « sueño » en espagnol, « tengo sueño », j'ai sommeil, mais j'ai fait des rêves ou... Voilà. Donc, cette confusion est d'une grande fertilité et je l'aime mieux que la difficulté qu'a Descartes de discerner le rêve de la conscience. Suis-je éveillé ou est-ce que je rêve ? Et j'aime beaucoup cette confusion.
Alors donc, cette marque espagnole est profonde en vous, mais il y a un auteur espagnol qui vous a marqué encore plus que les autres, je pense, et avec lequel un lien d'intimité profonde s'est établi, c'est José Bergamín, qui était un personnage très complexe, et dont vous dites « le lutin en lui le disputait à l'inquisiteur, il tenait de l'oiseau et du couteau ». Quand on est très proche de quelqu'un, comment fait-on pour gérer la part d'inquisiteur et la part de couteau ?
J'ai pu écrire cela tardivement. Quand je l'ai connu, j'avais un peu plus de 20 ans. Je l'ai tout d'abord admiré. Et admiré sa radicalité. Et puis, le temps passant, les paradoxes qu'il soulevait, et finalement une certaine cruauté qui allait de pair avec l'acuité de son intelligence, m'est apparue, mais je la respectais. Et c'est en ce sens que peut-être que l'homme que j'ai découvert était un lutin d'abord et un feu follet. Et puis je me suis aperçue que c'était beaucoup plus que cela et que les engagements, en particulier l'engagement politique, pouvaient conduire à la sévérité et même à la cruauté.
À la façon dont vous en parlez, moi ça m'a fait penser, dites-moi si je suis dans le vrai ou en dehors de vraiment... en dehors de la plaque, à Bernanos. Enfin, il y a du Bernanos dans cet homme-là, non ?
Ah, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison.
Par et le talent et puis par le...
Par la ferveur, l'ardeur.
L'ardeur
et le besoin...
Le refus des compromis.
Le refus des compromis et le besoin de donner sa vie. Bergamine à l'Espagne, Bernanos à la France, et à Dieu, l'un et l'autre.
Et tous les deux face à des dictatures, en fait.
Et tous les deux face à un moment terrible, qui est la guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale. Donc des hommes devant traverser, des écrivains, devant traverser le pire. Le pire. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas que vous ayez pensé à Bernanos, car Bergamine a été tellement reconnaissant à Georges Bernanos pour les grands cimetières sous la lune, qu'il a fait le voyage à Marseille, où Bernanos embarquait avec sa famille pour le Brésil, pour le remercier au nom du peuple espagnol.
Vous évoquiez l'enseignement, au fond, vous avez enseigné à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, donc je le disais tout à l'heure, la littérature générale est comparée. Quel était votre objectif auprès de vos étudiants ? Parce que c'est quand même une discipline particulière.
Écoutez, mon objectif était très clair. C'était leur faire aimer la littérature, les livres ou les questions que nous traitions.
C'est-à-dire les ouvrir au monde, quoi.
Je bénéficiais... en littérature générale comparée, d'une certaine liberté. Il y avait des cours obligés. Par exemple, j'ai commencé en enseignant les traductions françaises de Shakespeare au XVIIIe siècle. C'était oui. Un peu pointu.
C'est assez ardu.
Mais le temps passant, avec certaines collègues, nous pouvions proposer des sujets et les traiter. Et quelquefois, il m'est arrivé de traiter des sujets qui m'étaient inconnus. C'est-à-dire où je n'avais que très peu d'avance sur mes étudiants. Et je le leur disais, je ne prétendais à aucune maîtrise. Et donc nous cherchions ensemble, et c'était enthousiasmant.
Ce qui veut dire qu'ils vous ont beaucoup appris de vous-même ?
De moi-même, non. Mais de la matière que nous étudions ensemble, oui.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté qui a enrichi votre regard sur le monde ? Cette fréquentation
Ce qui me plaisait le plus... c'était les progrès. C'est-à-dire comment quelqu'un qui écrivait pas très bien au début, composait mal une dissertation, etc., pouvait faire des bonds en avant. Pouvait brusquement prendre goût à écrire sa copie et là aussi s'enthousiasmer, c'est-à-dire trouver... Moi, ma pensée, voyez-vous, c'est que en littérature, on est tous personnellement attendus. Il y a des écrivains, peut-être beaucoup moins connus que les autres, qui vous attendent chacun. Il faut les découvrir. Et c'est pour ça que j'essayais de traverser le plus de paysages possible de la littérature avec mes étudiants et de leur faire lire pas les très grands, pas les chefs-d'œuvre. Là, ils avaient tout à leur disposition. Mais des petits maîtres, des écrivains moins connus, des Valérie Larbaud, d'autres, n'est-ce pas ? Et cette façon de traiter le paysage, quelquefois par les collines et pas par les montagnes.
Oui. D'ailleurs, vous dites quelque chose, c'est dans La Séduction brève, je crois. Vous parlez de ces auteurs qui rentrent dans notre vie un peu par effraction.
Oui, c'est ça.
Qui nous séduisent et qui finalement ont plus d'importance pour nous.
Voilà.
Dans votre vie, par exemple, pourriez nous donner un ou deux exemples de ces effractions, des auteurs qui se sont imposés à vous sans frapper à la porte ?
Écoutez... oui, sauf que je les trouve très grands, trop grands pour mon raisonnement. Mais par exemple, un écrivain américain qui s'appelle Gertrude Stein, le poète Robert Desnos, Valérie Larbaud, que je citais, Jules Supervielle, alors que je croyais que c'était un écrivain d'autrefois. Bon, j'ai découvert avec ravissement et la poésie et la prose de Supervielle. Enfin, vous voyez des noms, au fond, un peu moins connus que d'autres.
Oui, qui sont dans l'histoire de la littérature plus que dans nos bibliothèques.
C'est cela.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure votre démarrage au cinéma. Donc, vous avez été, je le rappelle, la Jeanne d'Arc de Robert Bresson. Qu'est-ce que ce personnage-là, le fait de jouer ce personnage-là, vous qui êtes passionné par l'histoire, vous a fait viscéralement découvrir de Jeanne d'Arc ?
À vrai dire, je ne suis pas passionné par l'histoire.
En tous les cas, vous la connaissez fort bien, en tous les cas, l'histoire espagnole.
Oui, non, je ne suis pas, hélas, une bonne historienne. Et quand j'ai tourné Jeanne, je n'ai pas du tout mesuré qui elle était. J'ai eu la chance, avec Robert Bresson, de la découvrir par simplement les paroles qu'elle disait, des paroles authentiques. C'est-à-dire que brusquement, j'ai eu en ma bouche des phrases qui venaient directement d'elle. Et découvrir un être, non point par les batailles livrées, les livres d'histoire, mais les paroles prononcées, modifie incroyablement l'approche. C'est des années plus tard que j'ai lu les grands livres sur Jeanne, que j'ai lu Peggy, le mystère de la charité de Jeanne, que j'ai lu ce qu'avait écrit Bernanos Surel ou Michelet. Mais au début, quand j'ai 20 ans, Jeanne, c'est celle qui a prononcé les paroles qu'il m'est donné de prononcer.
Mais qui vous a marqué à vie ou c'est une étape
Ça m'a marqué pour beaucoup plus tard. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, peut-être 20 ans après, de la chance que j'avais eue de faire ce film avec Robert Bresson, d'entrer dans son costume d'homme. Et c'est après. J'étais trop jeune pour mesurer la beauté de tout
Donc
ça.
Donc il y a eu des sédiments, quoi.
Oui.
Deuxième question récurrente de notre série, l'essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur votre domaine d'activité aujourd'hui ou, si vous préférez, sur ce que vous faites actuellement ?
Voilà, il y a deux choses. Ce qui est essentiel, c'est la liberté. Je trouve que c'est tout le temps à refaire. Chaque fois que j'ai terminé un livre, je me dis que je n'ai pas été suffisamment libre. Et donc, c'est toujours un prétexte pour en faire un autre. J'essaye de me dire c'est le dernier. Et puis, je me dis non, je n'ai pas été assez libre. Je pense que c'est très important. Mais l'autre chose qui est importante aussi pour moi aujourd'hui, c'est la découverte de l'oisiveté. C'est-à-dire ne pas trop combler son temps, profiter de ce moment de la vie, avoir du temps pour le hasard, pour la rêverie, pour la lecture. Bref, découvrir ce que je n'ai pas eu le temps de découvrir dans ma vie, c'est l'osium. L'oisiveté, au sens noble. Voilà, liberté et oisiveté.
Oui, alors, en juger par votre œuvre, ce sont deux choses que vous n'avez pas eu le temps de pratiquer beaucoup. Hein. Si je fais référence à votre dernier livre, Mon Espagne hors et ciel, dont je disais que c'était un livre qui prenait aux tripes, c'est parce que là-dedans, vous évoquez toute une série d'écrivains espagnols. Donc, vous avez cité Calderón, vous avez cité Lorca, il y a aussi Hernández, Bergamín, il y en a d'autres. Et est-ce qu'on peut dire qu'à travers tous ces écrivains-là, il y a des éléments communs d'identité espagnole ? Est-ce qu'il y a vraiment une identité espagnole, encore aujourd'hui, telle qu'elle résulte de leur histoire ?
J'ai d'autant plus de difficultés à vous répondre que notre confrère Michel Serre, il y a quelques semaines, nous a démontré par A plus B que l'expression « identité nationale » était une imbécilité. Parce que l'identité, c'est la ressemblance avec quelque chose. Donc,
parlons de caractéristiques.
Serait la ressemblance de l'Espagne avec elle-même ? Il y a beaucoup d'Espagne. Et je sais bien qu'il y avait des tableaux au XVIIIe siècle où on essayait de décrire l'âme française, l'âme espagnole, l'âme allemande. Oui. les traits constitutifs du caractère allemand. Bon, je pense que c'est difficile, je ne saurais pas répondre. Non. Je sais qu'il y a des figures espagnoles qui me semblent plus... Ça va du Cid à la Célestine, en passant par le prince Sigismond, en passant par tous ces écrivains que j'aime, en passant par de simples êtres humains que j'ai rencontrés, qui chantaient, dansaient, ou ne chantaient pas, ou ne dansaient pas. Je ne saurais pas répondre. Qu'est-ce qu'une identité espagnole ?
Prenons un exemple. Là, vous citiez des... ou des figures ou des personnages très connus, mais il y a un écrivain qui a une place importante dans votre dernier livre, c'est Miguel Hernández, auquel vous avez consacré des travaux importants. Et il y a un sonnet d'Hernández qui vous a particulièrement marqué. Je tire ces mots. « Comme le taureau, je suis né pour le deuil. » Le taureau, la tauromachie, par exemple, est-ce que ça fait partie de l'identité espagnole ? D'autant que vous citez quelque part un texte de Bergamine qui parle de la tauromachie comme d'une joie. Tout ça, c'est quand même un peu... C'est assez étonnant. Alors, est-ce que c'est constitutif pour vous, en tous les cas, de l'image que vous avez de l'Espagne ou pas ?
Alors, je suis beaucoup plus proche de la vision de la corrida, de la course de taureaux de Bergamine que de Miguel Hernández, dont le sonnet, d'ailleurs, est magnifique. « Comme le taureau, je suis né pour le deuil et la douleur, comme le taureau », etc. Qui est en fait un sonnet d'amour qui se termine sur l'envie d'entrer dans le territoire de la femme aimée. Comme le torero doit découvrir le territoire de la bête.
Mais ça pourrait aussi être l'exergue de la guerre civile, cette phrase.
Non.
Non ?
Non, parce que la guerre n'est pas une fatalité. Tandis que dans le sonnet d'Hernandez, il y a une fatalité de l'amour. La guerre n'est pas une fatalité. Mais voilà, lui est allé beaucoup à la corrida, Miguel Hernandez. Il a même écrit une pièce au moment de la mort du torero Ignacio Sánchez Mejías, qui avait inspiré la magnifique élégie de Lorca. Mais c'est peut-être les essais de Bergamine sur ce qu'il appelait l'art de birlibirloquer, c'est-à-dire l'art d'abracadabra, c'est ça pour lui l'art de torer, qui m'ont le plus marqué parce que dans cet abracadabra, il y a quelque chose de la magie qui peut se passer dans une arène. Cette magie, ce moment de joie, de perfection, quand l'homme et la bête s'unissent par une série de faénas. Et il y a quelque chose de très beau qui peut arriver dans une arène. Voilà. Et c'est ce que sans doute les ennemis de la corrida ne comprennent pas très bien, car ils voient d'elle une barbarie qui n'est pas du tout dans sa tradition. Enfin, on ne va pas entrer dans cette discussion. C'est très très difficile de comprendre les arguments de la société protectrice des animaux vis-à-vis des taureaux quand on s'approche d'un abattoir.
On n'est pas sur la même planète.
On voit comment sont traités les animaux dans les autres.
Alors tout à l'heure, vous nous disiez donc qu'il était très difficile de parler d'identité espagnole. Donc vous rappeliez le message de Michel Serres. Mais il y a quand même dans l'histoire de l'Espagne un très long moment, une très longue période, à laquelle vous-même vous avez fait allusion en des termes brillants, c'est cette période qu'on a appelée la convivencia. Les 8 siècles qui vont de 711 à 1492, ça, c'est quand même quelque chose de très, très particulier. Le fait que pendant 8 siècles, les trois grandes religions aient pu vivre dans ce pays, non pas en harmonie totale, c'est pas la peine de faire les petits anges, mais enfin, que ça ait pu avoir des effets culturels aussi extraordinaires que cette rencontre de l'Occident et de l'Orient à travers cette fraternité, disons. Comment vous expliquez ça ?
Ce n'était pas une fraternité.
C'était une tolérance, en tout cas.
En effet, vous avez raison, c'est un moment extraordinaire. Et je suis très heureuse que le mot « convivance » soit entré dans notre dictionnaire, qui d'ailleurs existait au Moyen-Âge, dans les couvents. « Convivre » a existé, « vivre avec ». Vivre avec. Et « convivencia », c'est ça, « vivre avec ». Les chrétiens, les juifs et les musulmans ont vécu avec des heurts, etc., mais en se supportant, et même parfois en s'aimant beaucoup. Et ça a donné cette période que vous dites, qui est un modèle toujours, dont il nous reste de merveilleuses visions, des palais, des jardins.
Tolède,
oui. Voilà, mais comment ça a pu se faire ? Ça s'est fait avant la reconquête par les rois catholiques, avant l'esprit militant qui qui veut imposer une religion. Et on s'aperçoit que dès qu'on veut imposer une religion, la guerre est au bout.
Et vous pensez qu'il n'y a aucune leçon à tirer pour aujourd'hui, tout ça?
Ah si, au contraire, attendez.
Qu'est-ce qu'on peut en tirer, en fait? Je pense à l'exemple de ce roi extraordinaire, c'était Alphonse X. C'est quand même extraordinaire ce qu'il a voulu faire.
Oui. Là.
Si vous pouviez raconter ce qu'il a voulu faire, ce lieu de prière commune, enfin, c'est inimaginable
oui,
aujourd'hui.
Oui, oui, décloisonner complètement l'idée d'une spiritualité, au fond, plus importante que l'esprit, au fond. Triomphe des lieux et des murs et des clôtures, et que peu importe le minaret, la flèche ou le plafond, l'important, c'est de tourner son esprit vers l'au-delà, où finalement les esprits se retrouvent vers Dieu, puisque quand même, c'est trois religions monothéistes. Hein. Elles ont toutes un Dieu. Et comment dire, bien sûr, la convivance semble chaque jour plus impossible, alors qu'elle a eu lieu pendant des siècles dans un lieu. Ça devrait être une leçon, on devrait reparler d'elle.
Voilà votre prochain livre.
J'en suis pas capable, n'étant pas encore une fois historienne.
Alors, si je suis bien informé, donc, vous allez publier en Marche et Gallimard un livre intitulé « Mes cendriers ». Il y en apparaît-il pas mal chez vous. C'est-à-dire que vous allez évoquer beaucoup de souvenirs. Mais ce qui est très curieux, c'est que vous avez écrit beaucoup, beaucoup de livres. Et vous avez très, très peu parlé de vous. Je pense simplement des livres comme « La séduction brève » d'Inerval, donc « Mon Espagne ». Pourquoi aujourd'hui vous acceptez un peu plus de baisser la garde?
Mais je baisse pas du tout la garde. Je parle de mes cendriers, pas de moi.
Oui, mais à travers vos cendriers, il y aura beaucoup de figures, beaucoup de souvenirs.
Écoutez,
c'est un portrait de vous, quand même, quelque part. Comme Mon Espagne est un merveilleux portrait de vous.
Oui, mais alors tout est un portrait de soi, dans ce cas-là. Non, je voulais réfléchir sur la main, le briquet, la flamme, la fumée, la cendre.
Ouais, c'est vaste programme, aurait dit le général.
C'est notre vie.
Ouais,
tout va très vite. Et j'ai pris pour prétexte, donc, mes cendriers, qui suscitent des histoires, des anecdotes et une réflexion peut-être plus grave. C'est un livre, je crois, qui se voudrait aussi léger que grave.
Léger et grave, et en même temps, chez vous, dans toute votre œuvre, il y a une chose qui frappe, c'est qu'on a vraiment l'impression que vous croyez au don de révélation de l'imaginaire. Que l'imaginaire, pour accéder à la part de vérité à laquelle on peut accéder, c'est l'imaginaire qui est le...
Je dirais peut-être l'imagination.
Oui.
Je trouve que nous sommes dans une période en manque d'imagination. Et que sans elle, les romans ne sont pas de grands romans, les projets des hommes ne sont pas de grands projets, la convivence est impossible. Et il faut de l'imagination, il y a cette petite phrase comme ça, très belle, de René Char, « Imagination, mon enfant ». Et je crois que si nous pensions que l'imagination est notre enfant, que nous devons la faire grandir, l'éduquer, l'aider à voler de ses propres ailes, on serait certainement plus vaillant.
Mais est-ce que c'est cette passion de l'imagination qui vous a amené pendant de nombreuses années à chercher une traduction théâtrale du Graal, de l'univers du Graal? C'est l'imaginaire des
contes
celtes et...
C'est un peu différent. Jacques Roubaud et moi-même, quand nous avons décidé de travailler ensemble et d'écrire pour le théâtre, avons cherché une matière collective. C'est-à-dire quelque chose qui avait été inventé par d'autres que par nous. Une matière collective, c'est-à-dire appartenant à tous. Et on s'est aperçu que c'était pas très courant en France. Alors qu'il y a en Espagne ou en Allemagne des traditions populaires qui n'ont jamais été coupées complètement des traditions érudites ou de la poésie, etc. Alors qu'en France, le XVIIe siècle a établi une barrière terrible entre le Moyen-Âge, entre le passé et la tradition du conte, par exemple, etc., et la littérature.
Y compris dans la façon de jouer aux gendarmes avec les mots, quoi.
Ah, oui, oui, et de liquider les mots par centaines, ouais, car ouais. Le lexique de Rabelais est quand même infiniment plus riche que le lexique de Racine ou de Corneille.
La colère de Fénelon en 1714, sur
oui.
La lettre à l'Académie. Qui...
Et voilà, donc, on s'est aperçu qu'en fait, de ces traditions anciennes, surnageaient des noms propres. Merlin, le roi Arthur, la fée Morgane, Lancelot du Lac. Et par les noms propres, nous sommes remontés vers les conteurs et vers cette forêt, de cette brocéliande magnifique qui a couvert l'Europe, car dans toutes les langues d'Europe, on a raconté les histoires de cette cour. Et l'imagination, pour revenir à elle, des conteurs, est absolument magnifique. Et nous n'avions pas à faire preuve d'imagination. Notre travail de scribe était, enfin notre originalité si vous voulez, notre invention était dans la conjointure, c'est-à-dire l'assemblage de ces aventures et le sens qu'on voulait leur donner.
Mais en même temps, vous nous avez fait comprendre le lien entre ces contes celtes et même l'imaginaire d'Hollywood aujourd'hui. George Lucas, avec La Guerre des Étoiles, fait référence directe au Chevalier de la Table Ronde.
Mais je ne sais pas combien de jeux vidéo qu'elles jouent les enfants aujourd'hui, qui sont des jeux de chevaliers, de châteaux enchantés, de dragons à tuer, de...
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, donc on va élargir un peu les perspectives encore. Donc, votre regard sur le monde en général et l'évolution de notre société, qu'est-ce qui, sur ce plan-là, vous paraît essentiel à dire aujourd'hui? Il y a évidemment une part de jeu là-dedans. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur l'évolution de notre monde tel qu'il est? Si vous aviez une chose à dire, et encore une fois, il y a une part de jeu là-dedans.
À chacun de retrouver la vie intérieure. De retrouver une vie pour vivre ensemble, retrouver une vie qui ne soit pas collective. Faire confiance à ses propres forces et à sa vie intérieure. Je trouve que on se repose tout le temps sur les machines, sur l'information pour tous, sur les mêmes schémas. Et chaque être est en train de perdre ce qui fait son individualité et sa force et sa singularité. Retrouver donc les uns et les autres une confiance en ses propres forces, sans que ce soit le leitmotiv du président Mao, compter sur ses propres forces, c'est pas ce que je veux dire, mais d'une certaine façon, oui. Retrouver confiance en soi et en une vie qui n'est que la vôtre. Parce que on ne peut pas se fondre avec les autres tout le temps devant un écran. Par exemple, vous voyez, j'aime chercher. J'aime chercher, je ne veux pas qu'une machine trouve pour moi, me donne la réponse. Chercher fait partie de mon enrichissement. C'est une promenade, chercher. Si on appuie sur un bouton et qu'on trouve, tout de suite, la question qu'on se posait, tout le cheminement est perdu. C'est ce cheminement que j'aimerais qu'on retrouve. C'était, voilà, si le monde pouvait ralentir un tout petit peu, aller moins vite.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps?
Je vais employer dans un autre sens un mot déjà employé. L'égalité. L'hypocrisie, c'est de dire l'égalité. Égalité, tout est inégal. L'endroit où l'on est, les conditions de vie, les capacités, même la mort est inégale. Je me souviens du professeur Jean Bernard qui disait « Il y a une inégalité dont personne ne parle jamais, c'est l'inégalité de vieillage. Comment certains vieillissent bien et facilement et d'autres de façon catastrophique. » Donc l'inégalité est partout et on prétend à l'égalité. C'est dans nos principes et elle est là nulle part. Elle n'est pas là entre les riches et les pauvres, elle n'est pas, on ne lutte pas pour elle. On dit ce mot. Il ne recouvre aucune réalité.
Cinquième question de notre série L'Essentiel. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir?
L'existence de l'espérance, de la petite fille Espérance, qui contre vent et marée ressuscitera toujours. À votre question sur l'espoir, je réponds par l'espérance. Mais ce n'est pas un tour de
passe. C'est pas la même chose.
Vous voyez, il y a des événements. Par exemple, l'élection de Barack Obama a donné de l'espérance. Il y a beaucoup d'actions invisibles, dont on ne parle jamais, de dévouement, de gens magnifiques qui donne de l'espérance. Il y a même une rubrique dans le journal La Croix qui s'appelle « Ce qui va mieux ». Alors que vous ne trouvez ça nulle part, dans aucun journal. Une rubrique qui s'appelle « Ce qui va mieux ». Voilà, c'est cela l'espérance.
C'est drôle que vous répondiez ainsi, parce que j'avais l'intention de vous relancer en vous posant exactement, je vais vous dire la question que je voulais vous relancer, pour vous relancer. Vous allez voir, c'est drôle. À l'Académie française, vous avez succédé à Jean Guiton. Vous-même, comment appréciez-vous ce mouvement actuel d'intérêt pour la spiritualité, souvent vécu d'ailleurs hors des religions? On y est, quoi.
Assez souvent, la spiritualité hors des religions m'apparaît assez imbécile.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Parce que les religions sont assez riches et contiennent assez de grandeur pour qu'on s'y trouve bien. Je dois dire que j'ai découvert très tardivement, par exemple, les grands textes de la religion chrétienne. J'ai lu très tard les Confessions d'Augustin, quelques Pères de l'Église. Mais c'est passionnant, c'est d'une richesse, c'est d'une... Voilà, donc les spiritualités, par exemple, les amis à moi qui fuient toute parole chrétienne pour se précipiter et écouter le Dalaï Lama... me font rire, je veux dire. Voilà, c'est peut-être normal, c'est exotique. Mais je crois que votre question est juste en ce sens que il y a un besoin, un élan vers justement ce que j'appelais tout à l'heure la vie intérieure. La vie intérieure, c'est-à-dire une vie qui n'est pas nourrie quotidiennement. Et je crois que c'est cela que l'esprit cherche. Il cherche aussi à s'envoler un tout petit peu ailleurs, à avoir d'autres dimensions, à rêver, à imaginer. On retombe sur ces mêmes mots qui sont des guides.
Oui. Alors vous parlez de rêver, d'imaginer, d'aller ailleurs. Il y a une chose tout à fait étonnante dans vos romans, je pense à l'avant-dernier. Enfin non, c'est le dernier roman, Trois désobéissances, puisque le dernier, ce n'est pas tout à fait un roman. Vous semblez croire en la communication entre les vivants et les morts. Pour vous, ça vous paraît une quasi-évidence?
C'est moins une évidence qu'un profond désir. Que la terrible frontière n'en soit pas une. Et que nous puissions être quasiment sûrs de la présence... des êtres que nous aimons et qui ne sont plus là. Mais je vais vous dire, quand on a enseigné la littérature, on se dit qu'on a tout le temps fait ça, on a ressuscité des morts. Je veux dire, faire aimer des livres, des poètes, de la prose, c'est véritablement faire entendre leur voix, c'est les ressusciter. Et que la beauté de l'enseignement, c'est la résurrection. Et donc, il suffit de le désirer en compagnie peut-être de la beauté. De la beauté dont on parle très peu et qui fait tant de bien. Qu'elle soit en musique, qu'elle soit dans un paysage, qu'elle soit en peinture ou même un petit moment de beauté. Fait toujours un bien immense et reconduit vers l'invisible, je crois.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel, beaucoup plus personnelle et vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Quel a été le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou tenté de le surmonter?
J'allais répondre avec le théâtre, mais ce n'est pas ça. L'échec, c'est de ne pas avoir eu des forces décuplées pour donner du temps aux autres et en prendre pour moi. C'est-à-dire, je n'ai pas chômé, j'ai beaucoup travaillé, mais j'aurais aimé que mes journées aient été beaucoup plus longues et pouvoir... donner plus et prendre plus.
Est-ce qu'on peut dire, c'est une question très intime, hein, est-ce qu'on peut dire que vos relations avec votre père ont constitué un échec?
Ah non.
Vous avez écrit un livre dit Nerval,
oui.
Lui-même a écrit un livre sur Nerval.
Oui.
Et quelque part, on a eu l'impression que là, vous soldiez les comptes.
Oh, pas du tout. pas du tout, justement.
Souffriez d'une incompréhension entre vous, quelque part.
Non, au contraire. Le livre montre que je m'étais trompée. Je veux dire, en pensant...
Oui, mais les relations que vous avez eues n'ont pas été de très très bonnes relations, non ?
Ah si. Si, il y a eu une crise. Il y a eu deux moments de crise, mais Dieu soit loué. Il y a eu des crises, parce que, à cause de la grande personnalité de mon père et de la mienne...
Je rappelle que c'était un grand psychiatre.
Un grand psychiatre. Mais elles ont été surmontées, et les moments de... Au début et à la fin, par exemple, de sa vie, petite fille, et à la fin de sa vie, j'étais son meilleur ami. Je le voyais beaucoup pendant 10 ans. Avant mémoire qu'il écrivait ces années-là, il me lisait tout. Je corrigeais avec lui. J'étais très, très liée avec mon père. Il y a eu des crises. Mais je crois dans tous les grands amours, non ?
Non, parce que je pensais à quelque chose de vraiment très, très intime. C'est José Bergamine a été très proche de vous.
Oui.
Et il est enterré à Fontarabie, je crois. Votre père est enterré à Bayonne.
Ah oui.
Chacun est du côté d'une frontière. Or, ils ne s'aimaient pas.
Vous avez tout à fait
raison.
Vous avez tout à fait raison.
Vous étiez entre les deux.
La crise, enfin, les crises, bon, ça a été une crise adolescente. J'ai cherché d'autres pères. Bon. Et puis, Bergamine était un républicain convaincu, un homme engagé à gauche. Mon père était un homme de droite. Tous les opposés. Hein. Et d'ailleurs, Bergamine, apprenant que mon père avait fait un infarctus, disait... J'ai envoyé un télégramme de félicitations. Et l'annonce a été faite dans le Figaro de la mort de José Bergamine, papa m'a dit « j'ai appris cette nouvelle avec joie ». Donc, vous voyez,
allez,
donc il y avait une part d'humour aussi.
Oui. Septième et dernière question de notre série. Aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Aller le mieux possible vers la fin de mes jours. Ne pas avoir peur de la mort, pouvoir la regarder, ne pas perdre la force d'âme, le pouvoir de m'émerveiller, essayer, dans la mesure du possible, de trouver la joie du vieillage. Il y a des vers que j'aime beaucoup de la Nuit des Champs, des Indiens Navajos, qui dit « La beauté devant moi que je marche, la beauté derrière moi que je marche, la beauté tout autour de moi que je marche, le vieil âge sur la piste de la beauté. » Je trouve que cette image est magnifique parce qu'elle est très très peu occidentale. Le vieil âge, c'est le moment des catastrophes. Est-ce que pour une très ancienne sagesse, c'est le vieil âge sur la piste de la beauté.
Alors, vous avez évoqué la beauté, vous avez évoqué le temps qu'il fallait s'approprier. Mais ceux qui vous connaissent disent que vous êtes d'abord et avant tout quelqu'un qui s'intéresse aux autres plus qu'à lui-même. Est-ce que ça n'est pas la source de cette joie étonnante que vous manifestez presque tout le temps ? C'est ce sens des autres, cet appétit des autres, cette...
C'est drôle que vous disiez ça parce que je trouve que ce n'est pas suffisant. Mais oui, j'aime le monde, j'aime les autres, oui. J'aime mon prochain, J'aime les gens, en général.
Vous aimez la liberté ? Vous aimez le...
Alors, j'en manque, mais je ne baisse pas les bras.
Et au fond, vous croyez à la vertu créatrice de la désobéissance, même dans l'âge mûr, quoi. C'est ça ?
Oui, c'est drôle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Trois désobéissances », parce que je suis plutôt obéissante comme femme, au fond. Et en même temps, j'admire la désobéissance, oui.
Mais quand vous parlez de l'espérance et de cette joie du vieil âge que vous aimeriez partager, est-ce à dire que dans votre espérance, au cœur de votre espérance, il y a une foi chrétienne ?
Oui.
C'est ça. Donc, il y a Dieu au cœur de tout cela.
Oui, c'est une grande chance, j'en conviens.
Oui. Et avec toujours ce sentiment profond de la fragilité des choses. Enfin, tout est ténu, tout est...
Oui, c'est comme un vol d'oiseau. On le voit passer, c'est fini. Et sentiment de rapidité se fait de plus en plus fort.
C'est le texte de Lucrèce qui dit que le bonheur dans la vie, c'est de sentir que l'on vit, et d'être capable de percevoir cette seconde qui passe comme un trésor en soi. Quoi.
Voilà. Je suis heureuse que vous citiez ce passage parce qu'on oublie le trésor.
Bien, je voudrais terminer par un très beau texte qui termine votre livre, justement. Alors, vous n'indiquez pas quel est le dramaturge espagnol dont, que vous citez là. Vous dites que c'est un vieux dramaturge espagnol du siècle d'or. De qui s'agit-il? Le dernier texte.
Mais
qui...
je ne sais pas de quoi vous allez parler.
C'est la fin, lorsqu'il évoque la vie. C'est vraiment splendide. Elle vit au bon plaisir du vent et va de moment en moment durant ce qu'elle peut durer, puisqu'il n'y a qu'une nuance entre inspirer et expirer. Qui a écrit ça?
Calderón.
Ah ben, chapeau.
C'est magnifique.
C'est superbe. On peut le relire? Je vais vous laisser le relire, Tony, si vous le voulez.
Elle vit au bon plaisir du vent et va de moment en moment durant ce qu'elle peut durer, puisqu'il n'y a qu'une nuance entre inspirer et expirer.
Florence Delay, merci. Je rappelle le titre des deux derniers ouvrages que vous avez publiés, donc « Trois désobéissances », un roman édité chez Gallimard, et « Mon Espagne, or et ciel », une autobiographie intellectuelle à travers, au fond, les grands écrivains espagnols qui vous ont le plus marqué, est publié chez Hermann. Et puis, je signale également, donc, je rappelle, puisque nous l'avons évoqué tout à l'heure, que vous publierez dans quelques semaines, chez Gallimard encore, un livre intitulé « Mes cendriers ». Merci à tous et à toutes d'être avec nous.